Radio Classique, les spécialistes.
Il est 7h41 sur Radio Classique. Nous devons inscrire la sobriété dans la durée car le changement climatique va nous priver de 30 à 40% d'eau disponible à l'horizon 2050. Les mots d'Emmanuel Macron hier dans les Hautes-Alpes, le chef de l'État, et la présentation de son plan eau pour mieux gérer cette ressource. Bonjour Marie-Lise Massé.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale du Centre d'information sur l'eau. On n'imaginait pas, il y a encore 3 ans, un plan en France sur cette ressource. Aujourd'hui, il y a et il y avait véritablement urgence.
Il y avait urgence. C'est vrai qu'on était déjà passé par les assises de l'eau en 2019, puis
ouais.
Un peu après par les assises du Varenne agricole. Hein. Donc déjà, on voyait quand même une effervescence autour de l'eau. Et puis est arrivée cette sécheresse, plus importante que toutes les autres, qui a
accéléré en quelque sorte.
Ça a accéléré. Il y a eu une prise de conscience douloureuse, hein, quand même. Mais c'est vrai aussi que toutes les collectivités et les acteurs, depuis des années, disent qu'il va falloir faire quelque chose.
Alors, on va essayer de détailler les axes du plan eau voulu par l'exécutif, mais pour vous, quel est le chantier le plus prioritaire?
Alors, je pense que le chantier, et ça a été vraiment pointé, c'est les solutions pragmatiques. Elles sont technologiques, elles sont financières, et elles sont, étonnamment, on prend en compte aussi le côté plus humain, plus social. Voilà, c'est 3 choses à 360 degrés qui vont faire avancer, je pense, la cause de l'eau.
La question des canalisations qui fuient, c'est assez incroyable. Est-ce qu'on a des chiffres, on parle des fois de 30, 40, pour 50% même de l'eau qui fuit dans les canalisations dans une commune?
Bien évidemment, et ça dépend si vous êtes une ville urbaine ou une commune plus petite en rural. Il y a 2 chiffres qui sont intéressants. D'abord, c'est 1 milliard de mètres cubes qui sont fuyards chaque année.
Ouais.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça correspond à la consommation annuelle de 14 millions de personnes environ. Donc
ouais,
on voit
énorme.
Tout de suite que c'est énorme.
Ouais, ouais.
C'est énorme.
Et 180 millions d'euros justement pour les 170 communes qui ont le plus de fuites, si je puis dire. Est-ce que ça vous semble suffisant?
On vous dira toujours, quand on est un professionnel, c'est jamais suffisant. Mais je pense qu'il n'y a pas que l'argent. Il y a la volonté aussi qui est derrière. Le fait qu'on permet aux collectivités de travailler rapidement, hein, de gérer le problème rapidement, et notamment peut-être avant cet été. Et puis, c'est pas simplement ces 180 millions. Je crois qu'à côté, il y a d'autres choses. Il y a par exemple le fonds vert qui va pouvoir être actionné aussi.
C'est-à-dire le fonds vert pour les auditeurs.
Le fonds vert, vous savez, c'est quelque chose qui a été mis en place par l'État pour les collectivités, qui jusqu'à présent était plutôt pour tout ce qui était les problèmes énergétiques, changement climatique, etc. Et là, on va pouvoir faire rentrer les problèmes de l'eau. Et puis, il y a les agences hein, qui continuent. C'est 180 en plus, mais les agences continuent aussi à aider.
Ne plus gaspiller, mieux recycler. On pense notamment aux eaux usées. 1% seulement réutilisées. L'objectif, c'est 10% en 2030. Alors, il y a les objectifs et puis il y a la réalité. Ça vous semble tout de même atteignable? Est-ce que c'est assez ambitieux?
Je pense que c'est assez ambitieux, du moins pour les 7 années à venir. Il faut savoir qu'on part de très bas, on était un peu à la traîne. Mais pourquoi? Parce qu'en France, on n'est pas comme en Espagne, en Italie. On n'avait pas ce problème prégnant de sécheresse, donc voilà. Mais c'est vrai que les technologies existent depuis des années et qu'on se disait, c'est quand même bête de laisser toute cette eau usée sans occuper. 10%, vous vous rendez compte, on va pouvoir 10%. Ça veut dire qu'on va pouvoir gérer ne serait-ce que 20% de l'irrigation agricole.
Oui, parce qu'attention, hein, recycler les eaux usées, c'est pas devenir de l'eau potable. Hein, on va s'en servir pour d'autres choses. Hein,
oui,
on est bien d'accord.
On pourrait hein,
on
faire
pourrait,
de l'eau potable.
Mais
technologiquement, on peut.
Mais ça coûte
alors,
énormément.
C'est vrai que ça coûte plus cher. Il y a Singapour, il y a la Namibie qui sont très connus pour faire ce genre de choses, mais ça coûte un peu plus cher. Donc, déjà, allons vers irrigation agricole, nettoyage des voiries, des choses collectives, et déjà, ça sera pas mal.
Marie-Lise Massé, ça veut dire qu'on doit totalement changer notre rapport à l'eau, si je puis dire?
Oui. Et d'ailleurs, c'est dans ce plan d'action qui a été présenté, il y a les solutions technologique qu'on attend tous, parce que c'est ce qui va régler peut-être l'urgence. Il y a les solutions financières et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la solidarité. Voilà. Et là, c'est un changement. on essaie de faire comprendre que la solidarité humaine, que la solidarité entre territoires, et peut-être une façon différente de voir l'aménagement du territoire, va aussi actionner le changement.
Mais ça veut dire que dans les années qui viennent, par exemple, je veux me faire construire une piscine dans le Var ou dans les Bouches-du-Rhône, c'est terminé ? À long terme ?
Je sais pas, parce que vous savez, il y a un débat. C'est-à-dire, on parle des piscines tout le temps. Effectivement, c'est beaucoup d'eau. Mais en même temps, la sécurité civile vous dit que ça permet d'aller piocher dans une réserve quand il y a besoin pour des feux. Mais c'est vrai que, est-ce qu'il est encore raisonnable d'avoir des piscines chez soi, alors qu'il y a une sécheresse? D'abord parce que ça imperméabilise du sol. Et si vous rajoutez toutes les piscines en France, et il y en a énormément, vous imperméabilisez du sol, mais en même temps, c'est un confort. Ça permet à des familles de se réunir, etc. Donc, il y a un débat.
Il y aura débat, effectivement.
Débat, et notamment les PLU, les plans locaux d'urbanisme, devront en tenir compte.
Une tarification progressive de l'eau, est-ce que vous êtes pour ?
Alors, c'est intéressant, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui n'a pas été fait complètement. Là, je pense qu'on est vers une généralisation, et d'ailleurs...
Plus je consomme, plus le prix sera élevé à un certain niveau de
mètre cube. Et en contrepartie pour le consommateur, les premiers mètres cubes seront ou gratuits ou plus bas, un tarif plus bas. C'est intéressant parce que n'oublions pas que l'eau, c'est sans doute un patrimoine commun que nous avons, qu'il faut défendre, mais aussi, il faut faire attention que tout le monde puisse avoir accès à cette eau.
Deux dernières questions. D'abord sur les bassines, parce que c'est effectivement aussi l'actualité. C'est un non-sens écologique ou c'est une nécessité? Parce qu'on entend les deux écoles.
Alors je peux pas, justement, il y a deux écoles, il y a des débats, je peux pas vous dire que c'est absolument infondé. Il y a du positif, il y a du négatif, évaporation, prendre dans la ressource en eau, même en hiver, ça enlève de l'eau à notre ressource. Hein. Oui. Mais les choses changent, puisque en fait, si j'ai compris ce qui s'est dit hier, on pourrait faire des réservoirs, des bassines, mais d'abord, elles serviraient à plusieurs usages.
Oui.
Alors que pour le moment, c'est agricole. Donc, il y a des changements et il va y avoir des débats territoire par territoire.
Il nous reste que quelques secondes, malheureusement. L'agriculture française, en deux mots, elle va devoir se transformer.
Ah oui.
Oui.
Alors hier, le président de la République s'est réservé pour une future loi agricole, mais il a déjà bien dit que l'agriculture allait devoir se transformer et en même temps continuer à produire.
Merci Marie-Lise Massier d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes la directrice du Centre d'information sur l'eau et ce déplacement dans les Hautes-Alpes d'Emmanuel Macron. Eh bien, nous en reparlerons dans Esprit Libre, un déplacement très politique et sous haute tension avec Cécile Cornudet et Jean-Marie Colombani. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, rediffusion de son journal du 24 janvier dernier.